m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Et avec courtoisie,
bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue dans ce Restons Courtois du jeudi. Un Restons Courtois animé par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau en compagnie de Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir, Valentin.
Bonsoir, Marc.
Vendry de Guerpel, journaliste indépendant. Bonsoir, Vendry.
Bonsoir, Marc. Bonsoir à tous.
Et nous sommes en duplex avec Nicolas Boutin, chef du service VA Région, qui exceptionnellement ne tiendra pas sa chronique de 15 minutes, mais sera avec nous pendant toute l'émission. Car Nicolas est au plus près de l'affaire Quentin qui évidemment va nous occuper pendant toute cette émission. Vous en écouterez Charles-Henri Deslois à 19h30 qui s'interrogea sur un catholique, peut-il tuer ? Nous allons répondre à la question, un antifa peut-il tuer ? Visiblement oui pour Jean-Luc Mélenchon et pour une partie de la France Insoumise et de l'ultra-gauche. C'est en tout cas ce qui laisse transparaître. À 17h45, nous serons en liaison avec Aliette Espieux, l'organisatrice de la manifestation en soutien à Quentin ce samedi à Lyon. À 18h15, nous recevrons Édouard Bina aussi par téléphone, avec le président de la COCAR. Nous reviendrons sur le passé de violence qui émaille la jeune garde depuis ses origines. Et à 19h, nous recevrons en plateau le député du Rassemblement National, Mathias Renaud. Avec lui, évidemment, nous reviendrons sur l'aspect politique de l'affaire Quentin, et notamment cette séquence hallucinante à l'Assemblée Nationale et cette passe d'armes entre la chef du groupe La France Insoumise, Mathilde Panot, et le Premier ministre Sébastien Lecornu. Je vous rappelle que cette émission est aussi la vôtre, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Nous répondrons à vos questions, bien évidemment, et nous lirons vos réactions avec intérêt. Bonsoir Nicolas, vous nous entendez bien ?
Bonsoir, oui, très bien.
Bien. Vous avez été chargé par Valeurs Actuelles de piloter ce dossier de une, le dossier justement qui parle de l'affaire Quentin. En tant que chef de VA Région, vous avez des yeux un petit peu partout et des oreilles qui traînent un petit peu partout, Nicolas Boutin. Où est-ce qu'on en est de l'affaire aujourd'hui? Je crois que le procureur devait s'exprimer tout à l'heure.
Effectivement, il vient d'annoncer la mise en examen de 7 personnes pour homicide volontaire, dont un assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Il a bien précisé, 4 autres personnes, eux, ont été remises en liberté, mais restent étaient accusés, eux, de recel de malfaiteurs dans l'affaire. Et donc, eux ont été remis en liberté, mais seront convoqués de nouveau ultérieurement par le tribunal par les enquêteurs. Donc il reste quand même des charges sur eux. C'était 11 personnes qui avaient été interpellées il y a maintenant 48 heures en 2 vagues d'interpellation. Il reste des personnes à identifier, c'est ce que annonce également le procureur ces dernières minutes. Durant ces gardes à vue, en tout cas, 2 refusent de collaborer, en tout cas de répondre aux enquêteurs, tandis que d'autres admettent avoir été présents sur les lieux. Et enfin, certains ont reconnu quand même avoir mis des coups sur Quentin et ou d'autres victimes.
Voilà. Alors, en tout cas, si on vous suit bien, Nicolas, il y a au moins un collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud qui est soupçonné d'avoir tué Quentin, en fait, pour le dire de manière brutale.
C'est exactement ça.
Qui est soupçonné d'avoir porté le coup mortel, en tout cas.
Exactement. Alors, il faut quand même le reconnaître que aucun des suspects, pour l'instant, ne reconnaît de l'intention d'homicide volontaire. Mais effectivement, ces 7 personnes-là, dont l'assistant parlementaire, sont bien accusées d'être l'auteur de cet homicide volontaire et des violences aggravées, notamment par 3 faits, c'est-à-dire les armes, la réunion et les masques de la part de ces gens qui appartiennent à la jeune garde. Il faut savoir que seulement 3 pour l'instant ont admis être dans la sphère d'ultra-gauche.
On va revenir évidemment sur ce que c'est que la Jeune Garde, sur ses liens avec les forces politiques. Toutefois, Valentin Gore, quand on écoute le procureur, quand on écoute d'ailleurs sa première prise de parole il y a quelques jours, puis celle-ci aujourd'hui, quand on voit le travail d'investigation qui ont été faits récemment par des journalistes, je pense notamment à Erwan Seznec, notre confrère du Point, on s'aperçoit qu'en réalité, tout le contre-récit qui a été mis en place depuis le départ, c'est-à-dire une rixe entre deux groupes qui seraient venus pour les mêmes motivations et qui auraient dégénéré, prend de plus en plus l'eau à l'heure où nous parlons ce jeudi.
Oui, bien sûr. Je reviens sur ce que vous disiez au début. Un antifa peut-il tuer ? Nous en avons la preuve, si d'aucuns en doutaient, certainement. Il n'y a pas une équivalence. On voit bien qu'il y a eu de la volonté à gauche, mais pas seulement, de renvoyer un peu dos à dos, de dire tout ça, c'est finalement une bagarre de rue. C'est tombé ce jour-là sur un jeune homme de droite, ça aurait pu être l'inverse, une espèce d'équivalence. On voit bien de ce que nous dit Nicolas Boutin, rapportant évidemment les faits tels que les a rapportés le procureur de la République, qu'il y a là quand même vraiment une disproportion et une violence extrême de la part de la gauche, qui même face à un homme à terre, et un homme à terre ça n'est plus un militant, c'est un homme à terre dans tous les cas, et qui en l'occurrence, ces gens-là ont continué à frapper un homme à terre et un jeune homme de 23 ans.
L'autre information de la journée, c'est évidemment la décision, en tout cas la volonté du maire de Lyon, Grégory Doucet, maire écologiste, dont on rappelle qu'un des adjoints avait reconnu une forme de partenariat avec la Jeune Garde sur les questions de sécurité. Grégory Doucet a publié un communiqué, même s'il n'a pas le pouvoir de l'interdire, il a publié un communiqué en souhaitant que la manifestation en hommage à Quentin de ce samedi soit purement et simplement interdite par la préfecture. Vendry de Garpel, vous avez lu le communiqué de Grégory Doucet, qu'est-ce que vous avez pensé de la prise de position du maire de Lyon ? Est-ce que, allez, on va faire un peu l'avocat du diable, est-ce que après tout, il n'y a pas aussi une vertu de prudence dans la mesure où, en tant que maire d'une ville, on n'a pas spécialement envie de prendre le risque de voir deux forces en venir aux mains et chercher finalement l'affrontement ?
Non, mais on est tout à fait d'accord pour dire qu'à Lyon, il y a un climat de violence par les faits, en réalité, parce qu'on a des rues, des quartiers où on ne peut pas aller quand on est de droite. Il y a des rues, des quartiers où on ne peut pas aller quand on est de gauche aussi, hein, il faut le dire, dans les deux sens. En revanche, je remarque que dimanche à Paris, l'hommage qui a été fait à Quentin s'est très bien déroulé devant la Sorbonne, malgré la présence de certains groupuscules d'ultra-droite comme la gauche et le centre aiment beaucoup dire, mais voilà, tout s'est très bien passé. D'ailleurs, on notera et on pourra poser la question aux députés RN qu'il y avait des élus du Rassemblement National qui avaient beaucoup moins peur de s'afficher avec entre ce qu'on appelle les identitaires ou les nationaux révolutionnaires. Et donc je crois que Grégory Doucet fait preuve d'une grande lâcheté, d'abord parce que effectivement, ne pas vouloir que les amis de Quentin, que ceux qui ont milité avec lui puissent lui rendre un dernier hommage, même la famille, hein, on a vu qu'il y avait la mère notamment d'un jeune qui avait déjà été agressé auparavant par les antifas, qui va prendre la parole à Lyon. Donc effectivement, il fait preuve d'une grande lâcheté. Et en plus, c'est d'une... c'est vraiment d'une... Enfin, je trouve ça horrible même qu'on enlève la possibilité à la famille et aux proches de pouvoir rendre un dernier hommage à Quentin.
Nicolas Boutin, pardon. Il faut préciser une des choses qui ont été reprochées à Quentin par l'extrême gauche, mais peut-on parler de reproches ? On a entendu plein de choses. Alors pour certains, c'est un militant identitaire, un militant nationaliste, un catholique fervent. Il aurait fréquenté un groupe qui s'appelle les Allobroges de Bourgoin, si je ne m'abuse. Déjà, première question. Où est-ce que ce garçon, on est bien d'accord que quel que soit l'endroit où il a milité, il ne méritait absolument pas de se faire agresser, encore moins de se faire tuer. Je sais bien qu'on a l'antenne de Radio Courtoisie, mais on va quand même prendre les précautions d'usage. Nicolas Boutin, les Allobroges de Bourgoin, ils sont présentés comme un groupe néo-fasciste. Dans la réalité, qu'est-ce que c'est ?
Dans la réalité, c'est quelques jeunes, effectivement, nationalistes qui habitent dans le secteur de Bourgoin-Joyeux. C'est pas un mouvement qui organise des événements, ni même des manifestations. C'est ce qui finalement pousse de plus en plus partout en France depuis la dissolution des grands mouvements nationaux qui pouvaient être Génération Identitaire, le Bastion Social. On a vu aujourd'hui plein de petites bandes se créer un petit peu partout. Pour tout vous dire, les Allobroges, finalement, ce sont des gens qui viennent renforcer des manifestations de nationalistes ou identitaires un petit peu partout et qui en fait se sont donné un nom bande. Quand je parle de bande, c'est un groupe d'amis qui ont leur page Instagram dans lequel ils revendiquent leur présence dans Bourgoin-Joyeux. mais qui, à l'heure actuelle, ne sont pas impliqués, à ma connaissance, dans quelconque violence, que ce soit ni à Bourgoin, ni à Lyon. Il faut avoir un petit peu l'idée, c'est que à Lyon, il y a quelques grands mouvements qui subsistent encore dans la ville, et puis il y a beaucoup d'électrons libres, et Quentin en faisait partie, qui vont tantôt anémésiste, tantôt renforcer la cocarde pour un tractage, tantôt prêter un coup de main aux identitaires, à Lyon Populaire, et qui n'ont finalement pas d'étiquette, qui sont là pour rendre service à une cause, mais qui n'ont pas, ne font pas partie d'un groupe militant en tant que tel et ne jouent pas. Et je reviens très rapidement sur l'annonce de Grégory Doucet de vouloir interdire. Il n'y a pas pire comme décision que d'interdire ce rassemblement à Lyon, parce que de toute façon, vous imaginez bien que les billets de train sont pris, les billets d'avion sont pris pour les militants étrangers. Ils seront présents. L'idée, c'est est-ce qu'on leur permet de rendre dignement hommage à encadrés par la police et les services de l'ordre et
Ne serait-ce que pour les
dans
protéger,
la
d'ailleurs,
rue.
des mouvements antifa qui ont bien la GAL, notamment le groupe antifasciste lyonnais, d'ailleurs, a annoncé qu'il comptait perturber à minima cet hommage. Ouais.
Et on l'a vu à Toulouse où le rassemblement a été interdit par la préfecture. Et bien finalement, ça s'est transformé en plusieurs rassemblements sans sécurité aucune partout dans la ville, et notamment quelques claques qui ont été échangées devant un bar, et des militants d'ultra-gauche qui, comment dire, traînaient un petit peu partout dans le centre-ville pour à la recherche des militants d'extrême droite. Donc ce
Alors,
serait vraiment contre-productif de la part de Doucet, ce serait pas du tout avec ses prudences, bien au contraire.
on va reparler politique, mais il y a quelque chose que vous avez dit, Nicolas Boutin, qui m'a interpellé. On rappelle que vous avez écrit un très beau portrait de Quentin dans le Valeurs Actuelles de cette semaine. Je pense aussi au portrait qu'on a fait Paul Sugy, notre confrère du Figaro. En fait, quand on lit cette description que vous faites de Quentin, c'est-à-dire quelqu'un qui allait un petit peu partout, qui rendait service là où on avait besoin de lui, en fait, la meilleure définition. Qui résumerait, je pense, le mieux Quentin, c'est c'était un catholique, tout simplement, et un catholique engagé. Vendry de Yarpel, je pense que.
Oui, bah en fait, on lui a même reproché d'avoir fait partie ou d'avoir justement participé à des activités d'Academia Christiana. Vous connaissez cette association, alors qu'il n'a rien de problématique, puisque ce sont simplement des jeunes de droite qui cherchent justement à développer leur foi entre eux. Il y a un aspect peut-être un peu communautaire, mais en tout cas, il y a une volonté de s'élever dans la foi, dans l'engagement politique, et ça lui a été beaucoup reproché. Et je crois que ça dit tout du récit médiatique qui est en train de se mettre en place, du contre-récit en tout cas de la gauche. On essaye effectivement de justifier le meurtre d'un homme de droite parce qu'il a eu des engagements politiques qui ne les plaisent pas, et ça dit tout de la gauche aujourd'hui, qui avant voulait la mort sociale et maintenant qui donne la mort même physique.
On va en revenir justement avant d'aller dans le détail des groupes politiques, mais moi c'est ce qui m'a frappé, Valentin Gore, notamment quand quand on consulte les réseaux sociaux, il y a non seulement il y a effectivement des gens qui vont relativiser cette mort en la mettant à pied d'égalité avec d'autres faits passés, ce qui en soi déjà est assez scandaleux, comme si une mort en rachetait une autre ou inversement. Il y a surtout des profils qui se réjouissent de la mort de Quentin, qui disent que c'est une bonne nouvelle, qui disent qu'il faudrait qu'il y ait d'autres Quentin. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que généralement, ces gens-là se cachent derrière des pseudos et évidemment des dessins. Mais en l'occurrence, il y a des personnalités qui l'ont assumé avec leur nom, prénom, adresse. C'est-à-dire que soit effectivement, soit on est dans un climat de guerre civile en réalité, où on a vraiment une partie de la population qui veut la mort d'une autre partie. Soit en fait, on est face à des gens, et ça rejoint un peu ce qu'on pourra dire, je pense, après de la France Insoumise, qui ont perdu tout sens de la réalité.
Oui, vous dites guerre civile, un climat de guerre civile. Moi, je penserais plutôt au climat de l'épuration, hein, où on retrouve cette haine de gauche extrêmement violente, qui tire tous azimuts, convaincus d'être du bon côté de l'histoire.
Les résistants de 46, quoi.
Exactement. Moi, je trouve qu'il y a dans cette affaire, effectivement, on voit vraiment cette haine de gauche. Cette fameuse vidéo, où on voit un jeune homme comme ça dans la rue qui dit « Ah oui, Quentin, c'est très bien qu'il soit mort, tant mieux, excellent, maniant un espèce de deuxième degré, on sait pas d'ailleurs, peut-être est-ce du premier degré, enfin avec une... Et vous avez parlé des réseaux sociaux, moi je suis aussi frappé, y compris dans la presse, et y compris dans la grande presse, quand même d'une différence de traitement avec, par exemple, Clément Méric, qui est disparu en 2013, qui était un militant de gauche radicale, un meurtre également terrible, évidemment tout aussi condamnable, sans doute. On a, par exemple, cette photo de Quentin qui a circulé, qui sans doute ne correspondait peut-être pas à ce que la gauche aurait souhaité, parce qu'on voit là un jeune homme de 23 ans qui a un visage assez angélique, on voit pas exactement une brute, évidemment c'est une image, mais quand vous voyez que le site du Monde, par exemple, ne met pas cette image, c'est une façon aussi de prendre une sorte de distance.
Vendry de Yerpel là-dessus.
Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, quand on a appris le décès de Quentin le vendredi matin, j'ai tout de suite regardé un peu quel était le profil qu'il y avait en essayant de sonder auprès de ses amis qui était ce Quentin. Et quand on voit le profil du pauvre Quentin, en fait, c'est un gamin de 23 ans, il a 2 ans de moins que moi, il a perdu la vie pour ses idées, je pensais que perdre la vie pour ses idées appartenait à des livres d'histoire, et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas, et c'est un gamin qui a converti ses parents, qui a fait baptiser ses parents, qui était vraiment engagé au sein de sa paroisse, et donc effectivement, c'est vraiment le petit ange parti trop tôt, c'est vraiment ça, et je crois que ça n'arrange pas du tout la gauche, et donc, ils vont aller chercher, effectivement, les engagements qu'aurait pris Quentin à droite, et donc ils vont lui reprocher, et même après sa mort, et c'est sa deuxième mort en réalité, une première mort physique et une deuxième mort sociale qui advient après la mort physique.
Nicolas Boutin, je vous vois opiner du chef.
Non, mais bien sûr, et puis en fait, on parle de ces engagements qui arrangent certains, c'est-à-dire que à gauche notamment. Parce que qui à gauche a rappelé que Quentin, pendant 3 ans, a fait des maraudes chaque jeudi soir et qu'il donnait des sandwichs et surtout du réconfort aux sans-abri de Lyon, quelle que soit leur origine. C'est ce que le diacre qui l'accompagnait a pu nous confier, qui même lorsqu'il y a eu un moment de tension un jour entre un SDF et une fille, là encore, Quentin s'est interposé pour le défendre. Comment est-ce qu'il s'est interposé? Non pas en mettant un coup de tête, non pas un coup de coude. Il s'est interposé en essayant de désescalader cette scène de tension, ce moment de tension, avec dans l'objectif unique de pouvoir repartir en serrant la main. Donc en fait, il leur a parlé et ils sont repartis en se serrant la main. Et c'est ça, Quentin, en fait. C'est Quentin que c'est quelqu'un qui a été, on va pas en faire. Oui, enfin, comment dire, il est venu rendre un service à Némésis jeudi dernier. Il est venu par dévouement militante, parce que pour lui, ces jeunes filles n'ont pas à se faire agresser dans la rue. Et c'est assez incroyable quand aujourd'hui on veut retourner. On parlait là d'anonymes parfois, mais quand on voit aujourd'hui des personnalités politiques de premier plan et même des journalistes qui, au prétexte d'une vidéo. Qui est sorti il y a 2-3 jours, où ils sont bien contents de pouvoir dire oui, il y a eu un affrontement entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Ils oublient quand même de dire que la jeune garde vient de parcourir plusieurs centaines de mètres pour venir à la rencontre de ce groupe proche de Némésis qui est stationné à l'angle de cette rue.
Et pour certains, plusieurs centaines de kilomètres d'ailleurs pour se rendre précisément à cette conférence avec cet objectif bien précis d'ailleurs.
Et ben, notamment l'assistant parlementaire qui se faisait à Lyon, effectivement. L'autre point aussi qui est important à noter sur cette vidéo, c'est qu'au tout début de cette vidéo, il y a un homme tout à gauche qui se fait isoler et qui a 5 personnes qui le frappent contre une voiture. Cet homme-là, on ne sait pas encore si c'est Quentin. Premier témoignage que nous, on a eu et qui sont dans le dossier de Valeurs Actuelles cette semaine, c'est-à-dire qu'il y a eu ce moment où les groupes se font face, ce moment où, en fait, dès le début, il y a un homme qui se fait attraper, qui se fait presque kidnapper, en fait, qui se fait emmener de l'autre côté. Et pendant ce temps-là, les militants d'extrême-gauche créent une barrière avec le groupe pour que personne ne puisse aller le récupérer. C'est pour ça qu'il reste le groupe d'extrême-droite. Ils ne peuvent pas partir. Ils ne peuvent pas partir parce qu'ils laisseraient un de leurs copains. Mmh. Et on ne sait pas si c'est Quentin ou pas, mais en tout cas, c'est exactement ce qui montre ensuite. Et je termine là-dessus. C'est qu'ensuite, la jeune garde prend le dessus, les proches de Némésis s'en vont, fuient, et c'est encore quelques centaines de mètres plus loin que Quentin se fait lyncher à mort avec 2 autres personnes. Et c'est là où on avait vu les images le week-end dernier, et c'est là où on voit les très nombreux coups sur son visage et la tête. Le procureur l'a encore rappelé tout à l'heure.
Ouais. Et une auditrice qui nous écrit à l'instant, Quentin n'est pas mort pour ses idées, mais du fait de son courage. C'est vrai aussi. Il a eu le courage de se rendre à cette conférence, de protéger les militants de Némésis, en sachant pertinemment qu'il prenait des risques. Et c'est peut-être ça aussi un des sujets, puisque C'est un acte militant, somme toute, assez banal. Alors, comme tout acte d'agite propre, il y a toujours une petite part de risque, en tout cas de bousculade et de choses comme ça. Je veux dire, quand vous accompagnez des militantes qui vont rentrer dans une conférence et présenter des pancartes hostiles à la tenue de cette conférence, vous savez que potentiellement vous prenez quelques risques, mais à quel moment est-ce qu'on y va en se disant je risque ma vie en faisant cela, Nicolas Boutin?
Oui, et puis surtout que ils les ont pas accompagnés sur les lieux de l'action. Ils sont restés encore une fois hein, entre 2 et 400 mètres plus loin que le lieu de l'action, n'étant pas visible. Et donc, ils ne sont pas allés avec Nemesis devant l'IEP, devant la conférence de Rima Hassan. Ils ne se sont pas approchés, ils n'ont même pas vu l'action de Nemesis. En fait, ils les escortaient, c'était le point de repli, et c'était là où ils devaient les escorter pour sortir du quartier si jamais c'était trop compliqué.
Tout simplement.
À un moment, en fait, ça devait partir dans un affrontement comme ça avec la jeune garde. Évidemment, on est à Lyon, on sait que le risque existe à tout moment, mais finalement, en fait, quand vous regardez les vidéos que la jeune garde et les antifa de Lyon revendiquent à longueur de journée sur leurs canaux de Telegram, que, en fait, quand on va boire un verre sur une place, la place des terreaux, si on va au travail, et ben, en fait, on prend aussi un risque à Lyon lorsqu'on est militant à droite. Parce que tout à l'heure, on faisait le parallèle des militants de droite qui ne pouvaient pas aller dans certains quartiers, des militants de gauche ne pouvaient pas aller.
Alors, justement, pardon, Nicolas Boutin, je vous interromps une seconde parce que ce que vous dites est très intéressant. C'est aussi une rhétorique qu'on entend énormément à gauche depuis et au centre, d'ailleurs, chez les milieux, on va dire modérés, depuis quelques jours. C'est que il y a cette rhétorique comme quoi la jeune garde s'est montée en réaction à une violence d'extrême droite sur le fait que, à écouter cette rhétorique, Lyon serait devenu un endroit infernal dans lequel des centaines de miliciens d'extrême droite se baladeraient en toute impunité dans les rues pour agresser toute personne ayant une tête qui ne leur revient pas. On a vraiment l'impression, si vous voulez, que la jeune garde était une nécessité qui s'est montée, construite contre une violence déjà totalement prééminente à Lyon. Est-ce que ça colle ou pas, ce récit, pour vous?
C'est le narratif de Raphaël Arnaud et je suis assez surpris de vous l'entendre dans votre bouche, Marc Henault.
je suis là pour poser des questions, Nicolas Boutin, moi.
Mais en fait, ce qui surtout a dérangé la jeune garde, leur campagne, c'était la présence de mouvements identitaires et nationalistes dans Lyon, parce qu'il est vrai que à Lyon était devenu une place forte dans les années fin 2000 et surtout les années 2010, notamment dans le secteur du Vieux-Lyon. Il y avait des locaux pour l'Action française, il y avait un bar associatif et une salle de sport pour les identitaires. Il y avait un squat à un moment donné, une occupation d'un bâtiment de la part de Bastion Social, ex-Gude, qui avait eux aussi déjà un bar avant, des commerces, etc. Donc ils noyautaient le quartier. Force est de constater que oui, il est arrivé évidemment qu'il y ait eu des violences et des problématiques. Personne ne peut le nier, évidemment. Là où je fais quand même la différence, c'est que, a priori, des témoignages qu'on a, il n'y a pas eu de fichage de militants d'extrême gauche, contrairement
aux méthodes d'extrême gauche.
Exactement, les militants identitaires. Mais oui, il y a eu des débordements. Oui, notamment avec le football, on sait qu'il y a aussi une connivence entre certains groupes de supporters de l'Olympique Lyonnais et des militants politiques. Il y a eu des violences dans le quartier, il y a eu des démonstrations de force aussi, pas forcément violentes, mais des véritables démonstrations de force lorsqu'il y a eu la manifestation anti-casseur en 2010. Je vous rappelle, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais elle est importante, c'est là où Lyon devient vraiment la place forte. C'est-à-dire qu'en 2010, pendant 2 jours, la presqu'île de Lyon est ravagée par des pilleurs en marge des manifestations de la réforme des retraites. Et pendant 2 jours, la police s'est dépassée, il y a des dizaines de commerçants qui se font dévaliser. Et il y a 300 militants lyonnais, plus supporters du foot, qui descendent et qui disent « touche pas ma ville ».
Alors, je précise qu'on est sur Radio Courtoisie, donc on parlera d'aficionados du ballon rond, si vous voulez bien, Nicolas Boutin, pour éviter tout anglicisme.
Allez, c'est promis. On va parler d'ultra, si vous voulez. Non, mais effectivement, et donc en fait, c'est à ce moment-là où ce qu'on appelle l'extrême droite prend un essor à Lyon, mais en réalité, il y a une vraie jeune garde arrivée, il y a une vraie stratégie de harcèlement pour faire fermer les locaux en allant dans leur quartier, en provoquant des rixes dans leur quartier. Et finalement, malheureusement, et ça, c'est que beaucoup le disent, que ce soit à gauche comme à droite, ce qui est arrivé jeudi dernier devait arriver.
Vendredi de Garpel, sur la situation lyonnaise.
Peut-être rappeler deux choses. Déjà, la première, c'est qu'on n'a pas attendu Raphaël Arnaud et la Jeune Garde pour que l'extrême gauche soit violente. Elle l'est violente intrinsèquement, au-delà de l'antifascisme. Et c'est notre confrère du Figaro, là, Eugénie Bastier, qui l'a brillamment répété dans C'est ce soir, où elle expliquait justement que la guillotine tournait déjà à plein régime un siècle avant Mussolini. Et ça, je crois qu'on oublie beaucoup trop le fait que l'extrême gauche est intrinsèquement et historiquement violente. Ensuite, concernant Lyon, ce qui est intéressant, c'est que Raphaël Arnaud et ses copains ont été condamnés pour des faits de violence sur un juif, parce qu'ils poursuivaient un jeune étudiant juif dans les rues de Lyon, et qu'ils l'ont tabassé au simple motif qu'il était juif, en le traitant de sioniste.
C'était un mineur en plus.
Donc vous voyez la lâcheté aussi de ces gens-là. Et je crois que ça montre parfaitement la valeur morale qui est complètement différente entre les groupes d'ultra-droite et les groupes d'ultra-gauche. C'est que d'un côté, on en a qui arrivent à lyncher un gamin à 15 ou à plusieurs, tandis que l'autre essaye justement pour défendre des femmes qui se font attaquer. Je le rappelle, juste avant qu'il y ait le lynchage de Quentin, il y avait une fille de Némésis qui avait été traînée au sol et qui avait on a les images. Donc tout ça pour dire que l'antifascisme et l'ultra-gauche n'hésitent pas à attaquer même des femmes, ça montre leur bassesse morale.
On parlera évidemment des retombées politiques. Je rappelle, chers auditeurs, que vous êtes dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles à l'antenne de Radio Courtoisie. Je suis Marc Henault, je suis en plateau avec Vendry de Garpel, journaliste indépendant, Valentin Gore, journaliste chez Valeurs Actuelles, et Nicolas Boutin, chef du service VA Région. À 18h15, nous accueillerons Édouard Bina, le président de la Cocarde, avec lui nous reviendrons justement sur les faits d'armes, si je puis m'exprimer ainsi, de la Jeune Garde. Nous recevrons à 18h45 Aliette Espieux, l'organisatrice de la manifestation en soutien à la mémoire de Quentin. Et à 19h, nous recevrons le député du Rassemblement National, Mathias Renaud. Avec lui, nous reviendrons justement sur la séquence politique et sur les suites qui vont être données à tout cela, parce que le sujet, en réalité, va au-delà même de cet homicide volontaire, de cet homicide involontaire, au-delà même de homicide volontaire d'ailleurs, au-delà même de cet homicide volontaire, il y a évidemment toutes les répercussions politiques, parce que derrière la Jeune Garde, il y a bien évidemment, ça a été rappelé à de nombreuses reprises, il y a évidemment la France Insoumise, et pas de manière lointaine, de manière totalement directe, Valentin Gore.
Bien sûr, écoutez, Raphaël Arnaud étant député de Vaucluse, le lien est évidemment tout à fait avéré. Je crois même que ça dépasse la France Insoumise. Vous êtes, Marc, un grand spécialiste des gauches. Quand on voit sur des documents du Nouveau Front Populaire, donc qui va au-delà de la France Insoumise, en petit, certes, un peu comme sur les contrats d'assurance, vous avez des petites lignes en bas du document, il y avait assez souvent, pas chez tous les candidats, il y avait la Jeune Garde, en petit, au milieu de beaucoup d'autres chez François Hollande notamment, pas chez Emmanuel Grégoire, en tout cas de ce qu'il en dit. Donc bien sûr, le lien est avéré. Puis il y a quand même une chose stupéfiante, et à mon avis, ça nous concerne tous, c'est qu'il y a vis-à-vis de la France Insoumise ce que Philippe Séguin appelait une mitridatisation, ce qui veut dire une accoutumance au poison. C'est-à-dire, je pense, y compris nous, mais tout le monde, on finit par s'habituer et par considérer que les insoumis ont un espèce de régime spécial, qui sont par nature très violents, et que ce qu'ils font, ça passe un petit peu plus que si c'était, admettons, dans un monde alternatif, l'assistant parlementaire d'un député RN qui s'était comporté de la sorte, ou de n'importe quel autre parti. Il est évident que dans la seconde, ce député aurait été viré manu militari de son parti.
Mais d'ailleurs, Marine Le Pen et Jordan Bardella, oui, je suis d'accord, n'auraient pas attendu la moindre
même
vidéo
pas,
pour le virer du groupe dans la seconde.
Absolument.
En fait. C'est peut-être ça aussi une des différences flagrantes entre ces deux forces politiques que certains voudraient comparer.
Oui.
Non mais absolument. Concernant la France Insoumise, vous avez parlé évidemment, Raphaël Arnaud, bien évidemment, siège au sein de la France Insoumise, mais il s'est passé quelque chose de plus grave en janvier, peut-être que Nicolas Boutin a suivi, mais la Jeune Garde a été dissoute, et elle s'est finalement reconstituée en fait en banlieue lyonnaise, puisqu'on rappelle que Jean-Luc Mélenchon a assisté au lancement de la génération antifasciste tirée Éteignons la flamme, alors une appellation évidemment lancée un petit peu dans le cadre des élections municipales, mais qui réintègre des infos, d'après les informations qu'on a reçues, la plupart des éléments de la jeune garde, et cette fois-ci au sein même de la France insoumise. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être là aussi où la question d'association de malfaiteurs peut se poser. C'est que non seulement Jean-Luc Mélenchon a encouragé la jeune garde en tant que mouvement extérieur jusqu'à en accueillir Raphaël Arnaud, mais qu'en plus il a intégré les débris de la jeune garde après sa dissolution au sein de la France insoumise, Nicolas Boutin.
Oui, oui, mais tout à fait. Et en fait, éteignons la flamme, c'est reprendre en fait finalement les codes de la jeune garde, un petit peu aussi les codes qu'on avait vus de l'autre côté avec Génération Identitaire, c'est-à-dire reprendre des fumigènes en mettant des banderoles, etc. Tout. Oui, mais aussi de refaire des agressions finalement derrière, des nouvelles descentes. Alors cette fois, il les revendique moins, mais ils ont gardé finalement les mêmes autocollants. C'est-à-dire que la zone antiraciste, avec les mêmes couleurs que la jeune garde, ils ont juste découpé le logo de la jeune garde, parce qu'ils n'ont plus le droit de le coller. Ils ont même gardé aussi les mêmes dirigeants. Donc il y aurait aussi, ça, c'est une autre facette de l'enquête qui pourrait très bien un jour être ouverte, de savoir si oui ou non il y a une reconstitution de Ligue dissoute, puisqu'on rappelle que c'est du pénal et c'est 5 ans d'emprisonnement.
Gérald Darmanin l'a rappelé à l'Assemblée nationale, effectivement, ce mardi, oui.
Et cette fois, en fait, Jean-Luc Mélenchon ne va pas pouvoir s'échapper parce qu'il est directement lié. Et puis, il n'y a pas que lui. Quid de Sébastien Delogu, Martins et de Carlos Bilongo, les députés qui sont filmés en train de faire de la boxe avec des militants de la jeune garde. Moi, je croyais, quand j'ai écouté les antifascistes, je croyais que la boxe, vous savez que les identitaires à Lyon, ils avaient une salle de boxe. Je pensais que la boxe, c'était un sport pour apprendre à faire la guerre. Donc du coup, il y aurait la bonne boxe et la mauvaise boxe. Enfin, c'est-à-dire qu'on a, selon de quel bord politique on est, on n'a pas le droit de faire ce sport qui est aux Jeux Olympiques, par exemple.
En tout cas, absolument. Voilà. En tout cas, alors ça vient de tomber, chers auditeurs, un sondage Odoxa demandé par le Figaro justement sur la façon dont les Français prennent cette affaire. Seuls 11% des Français jugent que la France insoumise a réagi comme il le fallait. 76% ne souhaitent plus d'alliance PS-LFI. Et 61% des Français veulent un barrage anti-France insoumise au municipal. Jean-Luc Mélenchon voulait bétonner des fortins. Et finalement, on a l'impression que c'est tout ce qu'il aura, effectivement, des petits fortins ça et là, puisqu'on suppose que cette affaire aura radicalisé son électorat, mais que ça l'interdit, que ça le marginalise encore plus, Valentin Gore.
Ça le marginalise. Alors c'est vrai que jusqu'où va-t-on aller dans cette marginalisation ? Parce qu'en même temps, plus Jean-Luc Mélenchon se marginalise, plus à chaque élection présidentielle, il arrive tout de même à monter en jouant sur ces deux visages, sur cette espèce de dualité très perverse d'ailleurs, hein, où il s'est assez évidemment alterné entre ce visage extrêmement dur, où effectivement il assume, hein, il va par exemple dans des espèces de camps de vacances avec des militants de la jeune garde, et puis on le voit ensuite un peu après au salon de coiffure, caressant un chat, parlant avec des enfants dans la rue, tel Victor Hugo. Donc il sait assez bien jouer, et je crois qu'il sait aussi que beaucoup d'électeurs, hélas, suivent la politique de très loin. Moi, je voudrais aussi quand même en appeler à la responsabilité. On le fait pour les partis politiques. Il y a aussi une responsabilité des électeurs. Et moi, je me demande ce qui a bien pu passer par la tête des gens qui ont voté pour Raphaël Arnaud dans le Vaucluse. Je pense que la plupart ont voté d'abord la France insoumise sans se préoccuper de qui était le candidat dans leur circonscription. Enfin, il faut quand même essayer, quand on veut être citoyen, essayer un tout petit peu de se renseigner quant à la personne pour laquelle on vote, parce que ce monsieur, c'est quand même aberrant, parce que s'il est à l'Assemblée nationale, c'est certes parce que la France insoumise l'a investi, mais c'est aussi parce qu'il y a une majorité de gens qui ont voté pour lui et qui l'ont préféré notamment à une candidate RN qui, elle, le jour du second tour, de ce que j'ai compris, n'a pas pu sortir de chez elle. La police lui a demandé de rester
Catherine
barricadée
Jaouen,
chez
absolument,
elle.
Absolument. C'est une information de Boulevard Voltaire, absolument. Vendry de Yerpel sur ce sondage et sur la position de la France insoumise aujourd'hui.
Oui, depuis quelques jours, on voit effectivement le cordon sanitaire changer de place. Donc là, il est passé de l'autre côté du spectre politique. On verra s'il tiendra très longtemps. En revanche, je crois effectivement que certains à gauche, comme notamment Marine Tondelier, Gabriel Attal, qui ont leur responsabilité dans cette alliance des législatives entre la carpe et le lapin, commencent à regretter et se cachent. Marine Tondelier, aucune réaction. Hein,
à part un long communiqué quand même sur le réseau X.
Voilà, mais en tout cas, elle essaye de pas trop en parler quand même.
Oui, ça vous avez raison.
Donc elle se cache quand même pas mal. Et alors même qu'elle, justement, était favorable à au soutien inconditionnel de la Jeune Garde au moment de sa dissolution. Donc déjà une grosse responsabilité de leur part. Et puis moi, j'aimerais vous parler de Charles Mion, qui était en 98 au Régional à Lyon, qui avait été justement victime du cordon sanitaire, mais de l'autre côté, et qui justement, dans les rues de Lyon, avait du mal à faire campagne, à se déplacer, parce qu'il était justement chassé par les antifas. Donc ça rappelle quand même cette situation. Ensuite, au sein de la France Insoumise, j'ai quand même l'impression que son électorat approuve toujours et le renforce, parce que c'est un électorat qui est très militant et qui n'hésite pas justement à aller au-delà de leur combat politique, c'est-à-dire jusqu'à donner la mort s'il le faut. Et d'ailleurs, ça montre, en fait, c'est les 11% véritablement du sondage que vous avez donné, cher Marc Hainaut. Et puis ensuite, revenir aussi, et c'est intéressant de voir, hier soir sur le forum BFM TV, vous savez, c'est leur grand rendez-vous, il y avait une dame qui disait avoir voté pour la France Insoumise et qui aujourd'hui regrettait complètement son vote. Et je crois que justement, il va falloir...
Une retraitée en recherche d'emploi,
exactement.
Si je me souviens bien. Absolument.
Exactement. Et donc,
habituée de l'émission.
Il va falloir faire en sorte que certains électeurs prennent conscience, effectivement, de la dangerosité du vote La France Insoumise. Et je crois que tous les partis politiques de l'échiquier doivent justement appuyer à fond là-dessus pour que plus jamais certains revotent LFI.
Valentin, Nicolas Boutin, pardon, vous leviez la main.
Oui, non, mais très, très rapidement, c'est vrai que. Quand on parle un petit peu avec les militants insoumis, on les voit ces derniers mois, hein, ces derniers jours, d'autant plus, mais ces derniers mois, engager un vocabulaire, des réflexes que qu'on pensait réservés à une certaine catégorie de la population qu'on considère conspirationniste, complotiste. Je ne sais pas si vous me comprenez. On a parfois.
Si, je pense que tout le monde vous comprend ici, Nicolas.
On a de plus en plus. De références un petit peu soraliennes parfois de la part des militants insoumis. C'est assez, assez incroyable à voir parce qu'on les entend dire « Non mais regardez, c'est parce que c'est nous, c'est parce que c'est un tel et un tel la victime. » Et on a un glissement sémantique chez eux qui, comme vous le disiez, radicalise, renforce la base, mais radicalise énormément. Et là-dessus, il va peut-être falloir faire quand même assez attention à ce que si en plus il y a ce discours qui radicalise et des milices que l'on découvre au fur et à mesure des affaires judiciaires qui sont liées à la LFI, attention à cette montée de violence qui pourrait arriver et dont on sait qu'ils ne seraient pas contre. Un petit peu de bordel, comme on dit.
Oui. De bordel. C'est maintenant que c'est devenu une stratégie politique à part entière, vous pouvez employer ce mot.
Oui.
C'est plus une insulte, c'est une stratégie politique.
Mais d'autant plus que c'est cet électorat qui se radicalise.
Bon,
c'est l'électorat qui va aller chercher le vote des quartiers en vue de la présidentielle, qui va aller faire voter dans les quartiers le vote communautaire, le vote musulman, qui manquait complètement à Jean-Luc Mélenchon pour arriver au second tour lors des dernières présidentielles. Et c'est justement cet électorat, et on voit d'ailleurs la porosité, hein, on le voit avec Raphaël Arnaud qui va faire des clips de rap dans les banlieues, et il s'affiche ouvertement. Donc c'est aussi ces jeunes antifascistes qui font le lien entre le parti LFI et certains quartiers avec les votes musulmans qui sont très forts.
Mais voyez, alors outre évidemment les risques de violence politique évidemment et de j'allais presque dire de ferment de guerre civile en réalité, même sur le plan politique, moi c'est ça que je comprends pas vraiment dans la stratégie de la France insoumise, ou en tout cas j'ai peut-être peur de la comprendre, c'est que ils ont compris depuis François Mitterrand comment il fallait prendre le pouvoir en réalité, il fallait à un moment donné, une alliance des pôles radicaux, ce que Mitterrand avait réussi à faire, d'ailleurs, en absorbant le Parti communiste, qui à l'époque était beaucoup plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui, voire même aussi puissant que le Parti socialiste, et la gauche, justement, a compris avant la droite comment est-ce qu'il fallait prendre le pouvoir, en justement bâtissant une coalition. D'ailleurs, elle a continué de le faire avec la NUPES, le Nouveau Front Populaire, etc. Elle s'est même relevée du hollandisme, quand même. Enfin, se relever du hollandisme et se relever de l'élection d'Emmanuel Macron pour la gauche, enfin, c'était quand même quelque chose d'assez difficile à faire. C'est-à-dire, ça a complètement donné des ailes à Jean-Luc Mélenchon, mais ça leur a quand même, l'histoire de la gauche leur a toujours enseigné que la culture de coalition, c'était leur seule chance d'arriver au pouvoir. Et Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis font l'inverse. Lorsque je le vois radicaliser sa base, ça me fait penser au grand débat des valeurs qu'avait organisé Valeurs Actuelles à l'époque de l'élection présidentielle. Alors, j'étais pas encore journaliste ici, mais j'étais quand même présent. Et moi, ça m'avait frappé. C'était ce qu'avait dit Bardella aux zémouristes à l'époque, en disant ce que vous... Alors, C'est une autre forme de radicalité, beaucoup moins dangereuse et nocive, bien évidemment. Mais il leur avait dit, ce que vous êtes en train de faire, on sait ce que c'est, on l'a fait pendant 40 ans, et ça, ça vous fait plafonner à 15%. En fait, on a l'impression, si vous voulez, que sous l'impulsion de Jean-Luc Mélenchon, alors aggravé évidemment par cette histoire, que la gauche, en réalité, est en pleine régression électorale, en plein rabougrissement sur elle-même. Enfin, c'est pour ça que, même d'un point de vue stratégique, je ne comprends pas ce qu'a voulu faire Jean-Luc Mélenchon. Si quelqu'un, alors, à part évidemment assassiner la gauche et tuer le Parti Socialiste, hein, ce qui est un objectif en soi, mais ce qui va le priver du pouvoir pour assez longtemps. Vendredi Garpel, là-dessus peut-être ?
Oui, non, mais en fait, vous avez raison de faire le parallèle avec ce que Bardella a dit aux zémouristes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'effectivement, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ont une stratégie qui globalement la même, mais à des pôles complètement opposés. Puisque chacun parle d'identité, beaucoup plus d'identité. On voit qu'Éric Zemmour a envie de se positionner justement en réaction à Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, en plus, ils se ressemblent un peu dans la profondeur intellectuelle et des idées qu'ils ont. Donc là-dessus, oui, c'est intéressant. Effectivement, à gauche, ils savent faire une chose qui est très maligne, c'est qu'ils savent s'allier, avoir des désaccords, même si après, ils se trahissent et entre les alliances, ils sont très durs les uns avec les autres. Mais ils arrivent toujours parce qu'ils sentent déjà, le Parti Socialiste sent qu'il est en train de, ça fait quelques années déjà, mais qu'il est en train de disparaître, et donc effectivement pour sa survie, et d'ailleurs ça va être intéressant de voir au municipal les alliances qu'il va y avoir entre les socialistes et les insoumis, et donc effectivement eux arrivent parce qu'ils mettent leurs égos de côté, et nous et à droite ils ne savent pas le faire.
Valentin Gore.
Oui, alors tout ça me fait un peu penser à cette polémique qu'il y a eu dernièrement. Vous savez que le ministère de l'Intérieur a engagé une procédure pour requalifier la France insoumise sous le vocable extrême-gauche, hein, c'est bien ça. Ce qu'évidemment la France insoumise a vertement contesté, puisque eux se disent, en tout cas, c'est ce que dit par exemple une figure entre guillemets modérée de la France insoumise, Clémence Guettet, qui dit « nous ne sommes pas du tout l'extrême-gauche ». Alors c'est toujours ce qu'ils disent, il y a une extrême-gauche, on la respecte, c'est Madame Nathalie Arthaud, c'est le NPA, c'est effectivement toutes sortes de partis politiques qui ne sont pas la France insoumise.
Permanente,
voilà, en fait, il y a des tas de variantes, en effet. Mais ce que disent les insoumis, c'est nous ne sommes pas d'extrême gauche parce que nous sommes malgré tout dans le jeu démocratique, on ne veut pas prendre le pouvoir par la violence. Mais là, on commence quand même à constater qu'on s'écarte de cette volonté de prendre le pouvoir démocratiquement. Et on commence à voir dans la France insoumise un comportement qui n'est pas uniquement celui d'un parti qui est prêt, même avec une forme de violence verbale, à jouer le jeu des élections.
Il y a aussi
une stratégie de la violence, une stratégie de la tension, je dirais, pour reprendre un vocable italien des années 70.
Nicolas Boutin.
Non, mais c'est vrai que ça va être très intéressant et que ce qui se passe là est en train de rabattre les cartes politiquement, notamment pour le municipal, parce que, alors peut-être que ça c'est peut-être un peu trop tôt, mais qui va pouvoir s'allier désormais avec ceux qui ont fait entrer à l'Assemblée nationale des assassins, enfin en tout cas des tueurs. Je parle pas forcément du député, mais au moins des assistants parlementaires.
On va parler des municipales, bien évidemment, dans quelques... Déflorez pas trop le sujet, Nicolas, parce qu'après...
je ris pas tout.
Surtout que je sais qu'en plus vous travaillez beaucoup sur les municipales ces derniers temps. Vous étiez notamment à Carpentras, vous avez été à Lyon. Enfin, vous faites un petit tour des villes à enjeu. Évidemment, on en parlera. Mais comme dans deux minutes nous accueillerons le président de la Cocarde, Édouard Bina, je propose qu'on reste encore un petit peu sur le sujet. Valentin Gore, vous avez dit quelque chose qui m'avait amusé. Vous avez placé Clémence Guettet parmi les modérés de la France insoumise.
Je ne sais pas.
C'est parce qu'elle a l'air sympathique.
Elle a l'air plutôt sympathique et peut-être moins par rapport à Raphaël Arnaud, je veux dire, par rapport à des gens comme Monsieur Delogu. Raphaël Arnaud, elle paraît un peu plus présentable. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a aussi une stratégie. On en voit plutôt tel cadre parler, peut-être plus dans les médias qui peuvent être écoutés par les électeurs du Parti Socialiste. On voit qu'il y a la stratégie du râteau, comme on dit. Hein. On écarte les râteaux, puis on a différentes lignes, parce qu'il y a vraiment une ligne commune, mais différentes manières de l'exprimer, peut-être avec des gammes.
Alors, pour resituer quand même pour les auditeurs, même si Clémence Guettet, effectivement, elle a l'air très sympathique, elle est quand même présidente de l'Institut de la Boétie, qui est l'institut de formation de la France Insoumise, et ils ont notamment reçu, il y a quand même peu de temps, Andreas Malm, ce penseur d'extrême-gauche norvégien, je crois, qui avait notamment déclaré ressentir une jouissance en regardant les massacres du Hamas perpétrés le 7 octobre. Non, mais je vois bien, non, mais justement, Valentin.
Et
justement,
qui prenait le sabotage aussi.
Et qui prenait le sabotage et la violence, effectivement. Donc, et c'est ça, peut-être qui est inquiétant aussi, et non, vous avez raison en plus de dire que Clémence Guettet a l'air sympathique.
J'avais mis des guillemets, mais je crois que je vais carrément enlever le mot. Parce que...
mais en fait, et c'est peut-être ça aussi l'aspect dangereux, c'est que vous prenez Raphaël Arnaud, qui lui ne fait pas du tout sympathique, et Clémence Guettet, on a l'impression que ce sont effectivement deux personnes qui pourraient animer l'un un pôle modéré et l'autre un pôle extrême. En réalité, ils sont idéologiquement sur la même ligne. Et comme on est en train de parler de ligne, j'accueille Édouard Bina sur le plateau de Restons Courtois par téléphone. Bonsoir Édouard, comment allez-vous? On a perdu Édouard Bina. Édouard Bina va revenir parmi nous. Donc vous êtes là, formidable. On vous entend à peu près bien. Édouard Bina, vous êtes le président de la Cocarde étudiante, ce syndicat étudiant qui finalement, j'ai envie de dire, connaît bien la jeune garde. Édouard Bina.
Eh bien, oui, malheureusement, nous connaissons assez bien la jeune garde puisque nous refusons de laisser les universités les plus à gauche aux mains justement de ces idéologues. Et nous faisons un devoir de réclamer le fait que les militants de droite puissent être actifs politiquement, quelles que soient les universités, que la liberté d'expression puisse régner dans les établissements scolaires et universitaires. Et du coup, lorsque nous nous rendons sur certains campus, nous faisons face à l'hostilité des mouvements dits antifascistes, notamment une semaine à peine avant le passage à tabac meurtrier de Quentin, nous étions allés à l'université Lyon de Bron, où un groupe de la jeune garde armée avait commencé à s'en prendre à nos militants, avait commencé justement à passer à tabac un de nos militants au sol, que nous avons réussi à extraire. Et parmi ces militants de la jeune garde qui avaient tenté d'agresser nos membres, se trouvait un des individus qui a été interpellé ensuite dans l'affaire Quentin.
Je précise qu'en plus, Édouard Bina, parce que vous l'avez dit sur votre compte X, que vous avez été vous-même étudiant pendant 5 ans à Sciences Po Lyon. Donc là où c'est dans cette institution, c'est en marge d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon que Quentin a été tué.
Oui, et en fait, Sciences Po Lyon est devenu, malgré lui, un lieu dit chaud de la confrontation politique à Lyon, puisque ma présence dans cet établissement en créa des remous et amené à de nombreuses descentes de groupuscules d'extrême-gauche qui tentaient de s'en prendre à ma personne, de me harceler, de m'intimider, et qui essayaient, de manière assumée, de me faire craquer, de me faire arrêter de militer. Et donc, il y a déjà eu des groupes d'antifascistes armés qui attendaient aux abords de l'établissement, des gens qui ont tenté de me suivre jusqu'à mon domicile. J'ai reçu de nombreuses menaces de mort. Et il y avait l'extrême-gauche, elle a aussi coutume de déposer des manifestations pro-Palestine dans la cour de l'établissement pour ensuite faire rentrer l'ensemble des individus dans l'établissement lui-même. C'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs centaines de personnes qui n'étaient pas étudiants, dont des individus violents et armés, qui rentraient dans l'établissement et qui commençaient à tourner pour faire la chasse aux militants de droite.
Donc c'est...
En fait, il faut vraiment donner un contexte qui est que Sciences Po Lyon, cela fait 5 ans, c'est-à-dire... le temps où j'ai été actif politiquement là-bas, que c'est devenu un lieu de confrontation de par la... Justement, la gauche considère certaines universités comme leur chasse gardée, dont les IEP, et toute présence d'un militant de droite doit systématiquement amener une réponse de gauche, parce qu'ils veulent garder l'hégémonie complète.
Alors,
ma
dernière
présence
question...
là-bas était...
Dernière question sur Sciences Po.
Comme une provocation.
Ouais. Dernière question sur Sciences Po Lyon, Édouard Bina. Donc il y avait cette conférence de Rima Hassan, mais vous, par exemple, est-ce que lorsque vous étiez étudiant là-bas, ou même avant ou après, est-ce que des personnalités de droite, au moins du centre, en tout cas pas étiquetées à gauche ou à l'extrême gauche, ont eu l'occasion de donner des conférences dans cette institution?
Mais évidemment qu'aucune. Nous avions tenté de monter une association de droite à Sciences Po Lyon, et l'administration nous a gentiment dit que toute conférence de personnes de droite dans l'établissement serait annulée pour cause de troubles d'ordre public, puisque l'extrême gauche viendrait parasiter les conférences et viendrait créer une émeute, ce qui a été le cas pour Jean Lassalle, qui n'est même pas à une personnalité.
Même Jean Lassalle.
Il y a eu une tentative de conférence de Jean Lassalle à Sciences Po Lyon, où l'extrême gauche a commencé à tourner à l'émeute pour empêcher cette conférence.
Voilà, donc chers auditeurs.
Une stratégie assumée de la gauche de bordéliser, si on pardonne le terme, les universités pour empêcher toute conférence de droite en sachant que la droite n'osera pas faire pareil à leur conférence et que du coup, il ne restera in fine que les personnalités politiques de gauche pour parler dans les.
Ouais, donc pour les antifascistes, même Jean Lassalle est fasciste, c'est formidable. Y a quelque chose, une question que je voulais vous poser, Dorbina, parce que vous avez été justement, vous êtes particulièrement bien informé sur les violences auxquelles peuvent se livrer la Jeune Garde. Vous avez sans doute lu cet article du Parisien où il y a un témoignage d'un ancien militant de la Jeune Garde qui s'en est éloigné en raison justement de cette violence, de cette violence endémique. Lorsqu'il dit, on savait que ça finirait comme ça. Est-ce que c'est une pensée que vous avez déjà eue? Est-ce que vous, en tant que président de la Gauche, donc souvent en première ligne face à ces militants antifascistes, est-ce que cette pensée de ça pourrait finir comme ça, ça risque de finir comme ça, est-ce que ça vous a traversé l'esprit ou pas?
Ah mais nous l'avons tous eu et je pense pouvoir dire que quasiment l'entièreté des personnes militant politiquement à Lyon l'ont eu à un moment ou un autre vu le niveau de violence de la Jeune Garde et lors de l'annonce du décès de Quentin. Un très bon ami à moi, qui a été lui aussi militant à Sciences Po Lyon, m'a envoyé un message, ça aurait pu être nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que il y a trois caractéristiques qu'il faut vraiment retenir sur la Jeune Garde. C'est qu'il y a un niveau de violence qui est extrême. Ils ont publié des vidéos où on les voit sauter à pieds joints sur la tête de personnes, à 8 contre 1. C'est un niveau de violence extrême, et que ce n'est là, le passage à tabac au sol, le lynchage, ce n'est pas une exception, c'est systématique. C'est leur mode de fonctionnement. Ensuite, ils sont extrêmement bien organisés. Ce n'est pas une bagarre qui tourne mal. Ce n'est pas ça. C'est un guet-apens, c'est un lynchage. Tout est toujours très bien organisé. Il y a des consignes strictes à la Jeune Garde et rien ne peut être fait sans l'accord des chefs. Donc il y a responsabilité même de ceux qui n'étaient pas présents, puisque les chefs ont cautionné, forcément. Ont forcément cautionné, ont donné les méthodes et donnent les ordres. Il donne les ordres et il désigne qui est agressé, qui n'est pas agressé, le niveau de violence à mettre en fonction des individus. Lorsqu'ils agressent, par exemple, un tractage du RN, ils savent, et c'est des informations internes à la Jeune Garde, que les militants du Rassemblement National ou de Génération Zemmour ont tendance à porter plainte lorsqu'ils sont agressés. Donc, ils les agressent de manière à ce que les plaintes aboutissent sans suite. Donc, le niveau de violence est vraiment gradué en fonction des individus. Lui, il est décidé à l'avance par une chaîne de décision qui est très stricte.
Oui.
Et en fait, ce niveau d'organisation, on s'étend à l'ensemble de la ville de Lyon. C'est-à-dire que la Jeune Garde a des liens avec les autres institutions de gauche, le Parti Socialiste, avec la France Insoumise, l'Europe Écologie Les Verts, avec les organisations étudiantes. Par exemple, certaines personnes de ma promotion me prenaient en photo pour la manière dont j'étais habillé, donnaient mes informations sur mes horaires de cours à la Jeune Garde pour qu'ils puissent venir m'attendre avant ou après les cours.
Mais c'est un enfer, Edouard Bina. Vous avez réussi à finir vos études et être diplômé
Oui, j'ai fini mes 5 années de scolarité, toujours en présentiel. Je me suis refusé à quitter cette école parce que je considère que quitter cette école et laisser gagner, c'est faire en sorte que cela arrivera à quelqu'un d'autre. Et le meilleur moyen de tenir, c'est de leur montrer qu'on ne cède pas, c'est de refuser de lâcher le terrain, c'est de continuer à agir comme s'il n'existait pas, de maintenir la tête haute parce que nos idées sont justes et méritent que nous les défendions.
Vendry de Garpel, vous avez une question pour une remarque pour Edouard Bina.
Oui, une petite remarque. Je vois bien notamment sur X qu'il y a une contre-attaque médiatique de la gauche, notamment vis-à-vis de votre syndicat, la Cocarde étudiante, avec l'affichage de vidéos. Effectivement, on voit Pierre-Romain Thionnet qui était le patron de la Cocarde étudiante lors d'un affrontement qu'il y avait eu à Nanterre, qui est aujourd'hui député européen. Et donc justement, qu'est-ce que vous pensez vous de cette contre-attaque? Alors que si on remet un peu dans le contexte ce qui s'est passé à Nanterre, c'était vraiment un affrontement de la part de l'ultra-gauche. Encore une fois, et que vous faisiez que vous défendre.
Moi, je vais donner un exemple qui est très simple. C'est lorsque la Jeune Garde arrive à un événement de droite, il y a systématiquement de la violence. Lorsque nous allons tracter dans une université, il n'y a quasiment jamais de violence. Les seules fois où il y a de la violence, c'est quand nous venons tracter dans une université de gauche et il y a un groupe d'antifascistes qui vient nous agresser. Notre principe, c'est que nous ripostons lorsqu'on nous agresse. Mais la Cocarde étudiante n'a jamais été condamnée pour violence. Il n'y a pas un membre de la Cocarde étudiante qui a été condamné pour violence. C'est bien ça qu'il faut garder en tête. C'est que si nous étions réellement un mouvement violent, que nous étions un mouvement qui allait faire des descentes dans les universités, nous aurions des condamnations. Il y aurait des vidéos où l'on voit la Cocarde agresser des gens. Systématiquement, chacune de leurs vidéos, Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre un groupe de gauche venir au contact avec nous, essayer de nous agresser. Et la vidéo qui a été sortie à Nanterre, nous avons la vidéo complète, elle est sur notre chaîne YouTube. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une centaine d'individus, dont certains entièrement en noir, avec des matraques télescopiques, sortir des bâtiments universitaires, se jeter sur notre groupe. Notre groupe où aucun des membres n'est masqué et aucun des membres n'est armé. Il faut bien comprendre que si nous avions pour but de faire des descentes dans les universités et de passer à tabac des étudiants, nous ne le ferions pas à visage découvert, nous ne le ferions pas sans armes et nous ne resterions pas une heure ou deux heures sur un campus universitaire à tracter pour des élections. La cocarde étudiante n'est pas un mouvement violent, mais en revanche, nous nous défendrons toujours face au mouvement violent. Parce que lorsqu'on ne se défend pas, on risque justement le lynchage, on risque l'agression et ça peut être l'agression de trop. Et aujourd'hui, j'espère que l'ensemble de la droite a bien compris que nous ne pouvons pas lâcher nos camarades parce qu'ils ont eu le malheur de se défendre, alors qu'en face, ils frappent pour tuer.
Vous êtes bien sur l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Vendredi de Yerpel et Valentin Gore et Nicolas Boutin, ces deux derniers de Valeurs Actuelles et Vendredi de Yerpel, journaliste indépendant. Nous sommes au téléphone avec Edouard Bina, président de la cocarde étudiante. Évidemment, c'est encore un peu tôt peut-être pour espérer, mais est-ce que vous espérez que cette mort abominable serve peut-être de déclic, je pense aux présidents, aux recteurs d'université, je pense même aux ministres de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous espérez qu'enfin on prenne conscience finalement mais de cette gangrène qui pourrit nos facs, Edouard?
Nous l'espérons évidemment. Est-ce que cela arrivera, c'est bien différent. Je reprends l'exemple de Jacques Ellie, mais des amis à moi, parce que Jacques Ellie était lui aussi étudiant à Sciences Po Lyon dans la même promotion que moi, ce qui est aussi une des raisons des tensions, et il a menacé de mort deux amis à moi.
Je précise aux auditeurs, Jacques Ellie Favreau, l'attaché parlementaire de Raphaël Arnaud, qui est aujourd'hui soupçonné d'homicide volontaire sur la personne de Quentin. Pardon, je vous laisse poursuivre, Edouard.
Oui, et donc il a été impliqué dans plusieurs agressions d'après les procès-verbaux et d'après des plaintes qui ont toutes été sans nouvelles. Des amis à moi ont été menacés de mort dans l'enceinte de l'établissement par quelqu'un, Jacques-Élie Favreau, qui est lui aussi étudiant dans l'établissement. Enfin, la plainte n'a rien donné, et le mail à l'administration n'a rien donné non plus. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes livrés à nous-mêmes dans les universités. C'est-à-dire que des groupuscules d'extrême-gauche viennent attendre les militants de droite à la sortie, viennent les passer à tabac, viennent les menacer, et la justice ni la police ne font rien. Les directions d'université, lorsqu'elles ne sont pas complices, nous avouent ouvertement ne rien pouvoir faire. Et je reprends l'exemple de Sciences Po Lyon sur la fin de ma scolarité. Lorsque cela commence à devenir tellement compliqué d'aller en cours, et surtout qu'il déposait ses manifestations, et que je savais que pendant la journée, des individus armés allaient tourner dans l'établissement pour essayer de me passer à tabac, la réponse de la direction était de me dispenser de cours.
C'est pas de vague, quoi. Pas de vague dans l'université. Valentin Gore, vous avez une question pour Edouard?
Je vais.
Oui, monsieur, je rebondis simplement sur cette question de Sciences Po Lyon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à Gilles Le Châtelier, ancien directeur de cabinet de Christiane Taubira au ministère de la Justice et président de Sciences Po Lyon? Je pense qu'il était déjà président puisqu'il l'est depuis 2014 lorsque vous étiez vous-même étudiant à Sciences Po Lyon. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui?
Alors, l'actuelle directrice de Sciences Po Lyon est Hélène Surel, J'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec elle. Et en fait, ils sont complètement débordés et ne savent pas comment réagir. Et moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, en France, ce qui manque, c'est du courage. C'est que si moi, j'ai le courage d'aller en cours alors que des individus m'attendent armés, l'administration de l'école peut bien avoir le courage de punir des élèves qui partageaient les vidéos de mon agression, en riaient ouvertement, en venaient me menacer de mort dans les couloirs, tentaient de m'intimider ou ramenaient des individus violents, puisqu'il est déjà arrivé que je sorte de cours et qu'on me pointe du doigt pour bien prouver que c'était moi à des individus qui étaient liés à la jeune garde, dont notamment Dimitri, qui est lui aussi en garde à vue dans l'affaire du meurtre horrible de Quentin, pour qu'ils viennent me menacer de mort. C'est-à-dire que en fait, l'administration, n'osant pas faire quoi que ce soit, elle laissait libre cours non seulement à cette violence, à ce harcèlement, mais surtout à une impunité totale de la gauche, et c'est cette impunité qui a amené au meurtre de Quentin. J'avais déjà demandé par le passé, pendant 5 ans, à ce qu'il y ait de la sécurité, à ce qu'il y ait un accompagnement en haut à ce que l'on interdise certaines conférences qui menaient et qui donnaient lieu à des violences. Et je vais donner un nouvel exemple, c'est que lors de la dernière tentative de manifestation pour prendre le contrôle de l'établissement, j'avais prévenu la scolarité, j'avais prévenu l'administration, qui a tenté de bloquer l'école et en tirant l'alarme incendie pour que les portes se ferment et que les individus ne puissent pas rentrer. Ce sont des professeurs de l'université qui ont ouvert d'eux-mêmes la porte pour laisser rentrer les individus dedans. Mmh. Et il y a un niveau de complicité totale entre les étudiants, une partie du personnel administratif, la direction et les enseignants qui fait que les rares personnes qui ont un peu de volonté de faire quelque chose se retrouvent totalement débordées. Et aujourd'hui, si nous voulons faire quoi que ce soit, si nous voulons que le meurtre de Quentin ne soit pas en vain, nous devons nettoyer les écuries d'Augias de l'Université française.
Merci beaucoup Edouard Bina, président de la Cocarde étudiante, d'avoir été à l'antenne de Restons Courtois sur Radio Courtoisie ce jeudi pour parler évidemment de la mort de Quentin et surtout de l'ultra-gauche à l'université. On notera en tout cas que vous connaissiez même, j'allais dire personnellement, mais en tout cas que vous avez croisé plusieurs des assassins présumés de Quentin et que vous dressez un portrait extrêmement glaçant de l'état de l'université et de nos études supérieures. Merci à vous d'avoir été à l'antenne. Merci à vous, chers auditeurs, de suivre cette émission. Nous allons revenir dans quelques instants, mais d'abord un petit message de votre radio ainsi qu'une courte pause.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et de retour à l'antenne de Restons courtois sur Radio Courtoisie, Restons courtois du jeudi, Restons courtois présenté par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles, Nicolas Boutin, chef du service VA Région, en charge de toute l'actualité locale et particulièrement en point justement sur le sujet qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire la mort du jeune Quentin, les conséquences politiques et l'hommage prévu samedi à Lyon. Et Evandry de Guerpel, journaliste indépendant. Vous en aviez un petit peu parlé tout à l'heure, Nicolas, mais on va revenir dessus. Avec la France insoumise, victime entre guillemets d'un cordon sanitaire, la chute de la jeune garde et les élections municipales qui approchent, cocktail assez explosif, et j'ai presque envie de dire, même si ça peut paraître un peu cynique, recomposition politique en cours en réalité, Nicolas Boutin.
Oui, parce qu'en fait on a l'impression vraiment d'avoir vécu un séisme politique, si je peux me permettre cette expression-là, parce que vous savez, c'est cette gauche qui était gentille, qui était méchant, qui était tolérant ou pas, qui était dangereux ou non, qui avait accès, donc, comme on disait avec votre invité précédent, aux universités, parfois même dans des écoles, voilà, et qui nous disait donc, parce que parfois ils sont représentés par des professeurs et des enseignants, et qui nous disait donc qui était gentil ou bien, et bien c'est cette gauche-là, finalement, on se rend compte qui est capable de piétiner un homme pour ses idées, un jeune homme de 23 ans, et donc effectivement c'est un véritable séisme qui va peut-être entraîner une recomposition. On le voit même dans la presse, là, aujourd'hui, un petit peu partout, tout le monde est choqué de ce qui s'est passé. On voit même Jean-Michel Aulas, par exemple, qu'on ne peut pas accuser d'accointance avec l'extrême droite. Jean-Michel Aulas qui demande au maire de Lyon d'afficher le portrait de Quentin sur l'hôtel de ville de Lyon. On a à la fois donc, ce bloc central de Gérald Darmanin, par exemple, même Emmanuel Macron. Hein, Emmanuel Macron, quand il s'est exprimé sur ce sujet-là, Emmanuel Macron, je vous rappelle que c'est quand même celui qui a dit qu'il ne commenterait plus les faits divers. Donc s'il commente la mort de Quentin, c'est que ça en devient un fait politique. Et donc, il y a finalement aujourd'hui une passerelle entre le bloc central et ce qu'on appelle donc, enfin, le bloc de droite patriote qui est en train de se faire autour de ce visage de Quentin. Et puis, bah, de l'autre côté, effectivement, le bloc de gauche qui va devoir rendre des comptes sur l'alliance avec la Jeune Garde officiellement en 2024, avec Raphaël Arnaud. Et qui va devoir rendre des comptes et surtout... pour ceux qui demain vont devoir s'allier avec le mouvement de la France insoumise, ils risquent de plus aujourd'hui de le payer que d'en ressortir gagnant. Et là, ça rabat beaucoup de cartes parce que à Toulouse, ils devaient s'allier et faire battre la droite. À Marseille,
au second tour, en tout cas, au moins.
Au second tour, exactement. À Marseille, c'était donné pareil. Payan de Logu, finalement, fusionnerait au second tour pour battre le RN. Peut-être qu'aujourd'hui, la donne pourrait changer. Et vice-versa, voilà, il y a plein de villes pour les municipales. Et puis, bien sûr, pour la présidentielle de 2027, où les cartes sont rabattues.
C'est ce qui explique peut-être, Valentin Gore, le silence un petit peu d'Olivier Faure. On sent que le premier secrétaire du Parti Socialiste doit passer des mauvaises soirées entre les sociodémocrates et François Hollande d'un côté, qui appelle presque au cordon sanitaire contre la France Insoumise. Et je compte même pas les pro-insoumis du Parti Socialiste, même tout simplement les maires qui veulent être élus. En fait, oui. C'est vrai que
ça arrive.
Très compliqué. Alors, on sait qu'Olivier Faure est très fort pour bâtir des stratégies parlementaires pour obtenir des victoires politiques. Là, par contre, recherche colonne vertébrale urgemment, non ?
Ça fait un moment qu'il la recherche. Je crois qu'Olivier Faure, vous savez, il avait fait cette petite biographie, autobiographie, Je reviens te chercher. C'est un homme qui est très marqué par une forme de très grande méfiance contre la droite, puisque son père, d'après ce qu'il dit, participait à l'extrême droite, entre guillemets. Donc je crois que c'est quelqu'un qui préférera toujours l'extrême gauche à l'extrême droite et qui ne sera jamais, à mon avis, dans cette forme de rupture qu'a acté François Hollande à BFM TV hier matin. Rupture quand même amusante, parce que malgré tout, François Hollande a été réélu en 2024 aussi au nom du Nouveau Front Populaire et donc de la France Insoumise, et même, vous l'avez dit, avec la petite mention de la Jeune Garde, ça je l'ignorais. Donc il est certain qu'il y a différentes stratégies à gauche. Ce qui est amusant aussi, c'est de voir la situation, Nicolas Boutin a évoqué Toulouse, Marseille, il y a aussi la situation à Paris, évidemment, avec Emmanuel Grégoire, député en juin 2024, se présentant dans le centre de Paris, entre la Bastille et le Marais, prétendant lutter contre le Rassemblement National, ce qui est peut-être pas l'endroit où il fait ses plus grands résultats électoraux.
Je ne pense pas.
En tout cas, il est certain qu'il y a entre Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou aujourd'hui... plus qu'une incompatibilité d'humeur, puisque Madame Chikirou a même fait une plaisanterie de très très mauvais goût sur ce qu'elle nomme le sourire kabyle qu'elle souhaite faire à Emmanuel Grégoire.
Ce que nos auditeurs pieds noirs, en tout cas connaisseurs de l'égard d'Algérie, comprennent, le sourire kabyle, c'est évidemment l'égorgement, tout simplement, une pratique très en cours, notamment pendant la guerre d'Algérie, là où est née cette expression « Vendry de Yerpel » sur la gêne, un petit peu, on va dire ça comme ça, pour être courtois, d'Olivier Faure.
Oui, la gêne d'Olivier Faure, bien sûr, mais il y en a un autre aussi qui se retrouvait bien, bien couillon, pardonnez-moi l'expression, c'est Édouard Philippe, qui expliquait qu'il préférait toujours s'allier avec les communistes plutôt qu'avec les identitaires, et aujourd'hui, les communistes ont tué un identitaire. Donc déjà, ce point là-dessus, rappeler cette déclaration, mais aussi surtout à Marseille, effectivement, Nicolas Boutin, vous en parliez, le dernier sondage qui a été fait à Marseille pour les municipales, c'était hier, et on avait justement Benoît Payan, qui était autour de 31%, tandis que Delogu était à 12%, donc il n'était pas dans les trois premiers. Donc effectivement, il risque de se retirer pour pouvoir peut-être derrière négocier des choses avec Benoît Payan, à voir si Benoît Payan accepte effectivement de négocier quelques postes avec la France Insoumise. En tout cas, le faire, ça serait admettre qu'il y ait des racailles au sein de la mairie de Marseille. Et aussi rappeler que Sem Yoldas, qui est porte-parole de la Jeune Garde, qui est aussi candidat à Strasbourg pour les municipales, lui, il a retiré complètement toute mention de la Jeune Garde sur son compte Twitter. Donc voilà, donc il y a un vrai sujet d'aller essayer de traquer les gens qui font partie de la Jeune Garde et qui sont candidats. Et on le rappelle aussi, oui, effectivement, le verbatim affolant du jeune militant Léo qui expliquait que effectivement avec la Jeune Garde, ils allaient faire le sale boulot pour avoir derrière des postes. Et donc effectivement, si cette stratégie se révèle vraie, eh bien, il y a sûrement des candidats investis qui font partie de ceux qui utilisent souvent la violence dans leur manière de militer.
Alors, je vais vous donner la parole, Nicolas Boutin, mais juste pour une petite précision, effectivement, vous avez parlé de Sem Yoldas, qui est le candidat à Strasbourg, alors qui est soutenu notamment par le nouveau parti anticapitaliste. Lui, il se présente contre la France Insoumise, en tout cas pas dans le cadre de la France Insoumise. Et s'il fait une campagne extrêmement communautaire et déplaisante, il faut lui reconnaître quand même qu'il avait pris ses distances vis-à-vis de la Jeune Garde, notamment sur fond de désaccords profonds avec Raphaël Arnaud, notamment sur justement l'utilisation de la violence.
Enfin, il a bien défendu ses anciens copains sur BFM TV il y a deux jours.
Absolument. Je mets des guillemets. Après, j'invite effectivement des auditeurs à aller écouter les propos de Sem Yoldas et de se faire leur avis par eux-mêmes, bien évidemment. Nicolas Boutin.
Non, il a été quand même, Sem Yoldas, il a été filmé en train de frapper un homme qui sortait de la messe, soi-disant parce qu'il avait le crâne rasé à Strasbourg. On le voit. Hein,
vous avez raison de le rappeler, oui.
Il est aussi inquiété pour des histoires à Rennes, où il était avant. Vous verrez, il y a une belle enquête qui va bientôt sortir sur le site de Valeurs Actuelles. Je vous invite à bien vous y rendre. Mais,
une très belle bande-annonce que vous venez de faire, Nicolas. Bravo.
Et puis, il y a comme aussi la question du devenir électoral de Raphaël Arnaud, parce que pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon le soutient et ne le débranche pas. Mais va-t-il mettre en péril finalement toute sa stratégie pour 2027, sa dernière présidentielle, a priori, pour Jean-Luc Mélenchon, à cause de ces petits jeunes qui ont fait cette grosse bêtise, puisque pour lui, c'est rien d'autre qu'une grosse bêtise, qui ont fait ce crime. Est-ce que Raphaël Arnaud va pouvoir rester à l'Assemblée nationale? C'est aussi une vraie question. Et on voit quand même que la pression monte autour de lui et autour de LFI. Et si demain, à chaque meeting et à chaque tractage sur le terrain, ou à chaque interview, il est questionné là-dessus, je pense qu'à un moment donné, Raphaël Arnaud va devoir retourner à, non pas à Avignon, mais à Lyon. Et ce qui ne serait pas forcément non plus une bonne chose pour le climat politique local.
Et en fait, ce qui est fou, c'est que je trouve que c'est symptomatique de la façon de faire de Jean-Luc Mélenchon, qui avait pris la parole notamment hier. Il avait dit on se déshonore lorsqu'on frappe d'une manière qui comporte le risque d'infliger la mort. Et ce qui avait fait ironiser d'ailleurs Jérôme Guedj, le député de l'Essonne, qui disait en résumé, on peut taper mais pas trop fort. En fait, si vous voulez, c'est ça Jean-Luc Mélenchon, c'est je ne condamne pas la violence, je condamne celle qui tue. Je ne condamne pas les émeutes urbaines, par contre, essayez de pas brûler les écoles, mais par contre, vous pouvez cramer le reste. Et c'est ça que je trouve fascinant dans cette rhétorique de Jean-Luc Mélenchon, c'est que j'encourage la violence à condition qu'on parte pas dans du pénal, entre guillemets, quoi, à condition que ça m'attire pas d'ennui. Et là, effectivement, il est en plein dedans. Moi, je voulais juste vous parler d'Olivier Faure encore très rapidement, juste pour illustrer le malaise dans lequel il est. Alors, Olivier Faure, qui a mis du temps à réagir, évidemment, à l'affaire, à la mort de Quentin, mais qui a fini par commettre une note dans son blog. Je vous donne une citation de la version originale de cette note. Aucun parti ne peut accepter le compagnonnage même lointain de ce type d'organisation, qu'elle s'appelle la Jeune Garde, Génération Identitaire ou l'Action Française. Aucun parti ne peut encourager ces organisations, publiquement ou mezzo voce, à devenir des milices pour se défendre de ses adversaires. Les gens de droite vous diraient c'est scandaleux de comparer la Jeune Garde à la Génération Identitaire ou l'Action Française. La Jeune Garde est beaucoup plus violente, mais dans la bouche du premier secrétaire du Parti Socialiste, mettre sur le pied d'égalité la Jeune Garde et Génération Identitaire, disons que certains y ont vu une forme de courage. D'ailleurs, la France Insoumise l'a bombardée en l'accusant évidemment de trahison, etc. Et face à la pression, voici la nouvelle mise. Parce que Olivier Faure a fait une mise à jour de son blog et voilà la nouvelle version. Aucun parti ne peut accepter le compagnonnage, même lointain, de ce type d'organisation, point. Il a enlevé toute référence à la jeune garde, à la génération identitaire, etc. Enfin, si vous voulez, et c'est ça peut-être le drame dans lequel s'est plongé Olivier Faure. Je pense que sa stratégie de s'accoler momentanément à la France insoumise, ça l'a peut-être sauvé d'un point de vue électoral pendant un temps, mais ça l'a, évidemment, vous parlez de poison, vous avez cette phrase de Philippe
Séguin.
Oui, Seguin.
La mitridatisation, c'est un mot un peu difficile. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est fou, parce que...
Olivier Faure était contaminé par ce poison,
Olivier Faure est très contaminé, il y en a un autre qui est quand même contaminé d'un peu plus loin, mais aussi, c'est Gabriel Attal.
Vous avez raison d'en parler, oui.
Qui, à mon avis, s'est dit, dans ce fameux soir du premier tour des législatives, que, finalement, son idée de dire, bon, si vous êtes dans une circonscription avec un RN fort, et qu'il y a un LFI en face, bah, votez LFI, voilà. Je pense qu'il pensait que ça passerait un peu à l'as, qu'on l'oublierait, que la société du zapping ferait que ça lui collerait pas à la peau. Il a pris exemple là sur son mentor, son ancien mentor, en tout cas Emmanuel Macron, qui est un vrai transformiste. Vous le savez, Marc, puisque vous publiez très prochainement, dans les tout prochains jours, un livre sur le bilan d'Emmanuel Macron.
Merci
l'ampleur
pour la promo,
des dégâts,
Valentin.
Je l'ai fait, c'est bien normal. Mais tout ça pour dire que Gabriel Attal, il est là aussi mouillé, et ce choix va peut-être être finalement ce qui va condamner son rêve présidentiel à terme, parce que je pense qu'il ne s'en relèvera pas, en tout cas pas pour l'Élysée.
Ce qui est encore une fois la conséquence d'avoir traité la France insoumise, de ne pas avoir traité la France insoumise à minima comme une anomalie politique. C'est-à-dire que tout le monde, effectivement, mais je crois que c'est vous qui disiez ça en début d'émission, tout le monde s'est habitué à la violence de la France insoumise, tout le monde a fermé les yeux, un peu comme un enseignant laxiste qui ferme les yeux devant des enfants turbulents en se planquant derrière l'éducation positive, quoi. Parce que, honnêtement, vous êtes journaliste politique, vous êtes comme moi, vous êtes abonné un petit peu aux tribunes de l'Assemblée nationale, il faut se rendre compte de l'ambiance depuis 2024, c'est-à-dire c'est assourdissant, c'est à devenir complètement dingue. Tout le monde a critiqué certaines sorties excédées, notamment celle du député du RN Grégoire de Fournas lorsqu'il avait crié qu'il retourne en Afrique en parlant d'un bateau. Mais quand vous êtes plongé dans cette espèce de quand vous êtes plongé dans cette espèce de cacophonie permanente avec des gens qui hurlent, qui insultent en permanence, c'est à devenir complètement dingue. On va quitter l'Assemblée nationale, chers auditeurs, puisque nous avons en ligne Aliette Espieux. Aliette Espieux qui est l'organisatrice de la manifestation de samedi à Lyon en hommage à Quentin. Bonsoir Aliette.
Bonsoir Marc.
Merci d'être avec nous. On a appris évidemment ce matin que Grégory Doucet avait plaidé pour que cette manifestation soit annulée, que cette manifestation n'ait pas lieu. Il invoque des troubles, pas de l'extrême gauche, mais de l'extrême droite. Aliette Espieux, comment vous avez accueilli cette demande du maire de Lyon, Grégory Doucet ?
Moi, j'ai trouvé ça quand même extrêmement déplacé de la part de Monsieur Doucet de s'exprimer sur l'hommage de cette manière, étant donné que, bon, M. Doucet devrait quand même balayer devant sa porte. À partir du moment où sa mairie, durant son mandat, la mairie de Lyon a quand même permis à la jeune garde de se développer. On sait que la mairie avait une certaine complaisance avec la jeune garde, qu'elle fermait les yeux sur beaucoup de choses. On sait que la mairie prêtait des locaux à la jeune garde, enfin voilà. Il y a quand même un lien entre la mairie et la jeune garde qui est responsable de la mort de Quentin. Donc en fait, déjà il y a le premier point. Quant au potentiel débordement de l'ultra-droite, je suis désolée Monsieur Doucet, mais ce n'est pas l'ultra-droite qui est responsable de la mort de ce jeune de 23 ans.
Mmh. De toute façon, le maire de Lyon n'a pas le pouvoir évidemment d'interdire une manifestation, c'est un pouvoir qui relève de la préfecture essentiellement. On suppose que vous êtes en lien avec les différentes forces de police, de gendarmerie, des renseignements, les services administratifs, etc. Pour l'instant, tout porte à croire que la manifestation va se tenir. Vous n'avez pas eu de contre-indication de la part de la préfecture à l'heure où nous parlons.
Exactement. Non seulement je n'ai pas eu de contre-indication, mais j'ai plutôt Enfin voilà, je travaille depuis samedi, main dans la main avec la préfecture, les services de la police, etc. Nous travaillons, en collaboration en quelque sorte, puisque je prends en compte l'ensemble des recommandations, que ce soit du préfet, mais également des services de police. Nous respectons les conditions de la préfecture. Nous avons également nous respectons également les conditions de la famille de Quentin, ce qui est extrêmement important de rappeler. Il s'agit là d'un hommage. Toutes les personnes qui viendront à cet hommage viendront pour se recueillir.
Ouais.
Voilà.
On précise, du coup, vous, Vous affirmez donc que cette manifestation est a suscité l'accord, en tout cas, de la famille de Quentin. C'est-à-dire la famille de Quentin approuve cette initiative?
Alors, je ne peux pas dire qu'elle approuve, si vous voulez. C'est pas ils ne sont pas à l'initiative. Il n'empêche qu'ils sont au courant de cette manifestation. Je ne peux pas parler en leur nom. Ils nous ont transmis leurs conditions. Qui nous ont transmis leurs conditions. On leur a assuré que nous les respecterions. Mmh. Et donc, nous invitons également l'ensemble des manifestants à respecter ces conditions. Ce sera rappelé à de nombreuses reprises durant l'hommage pour Quentin. Nous sommes là pour Quentin et pas pour autre chose. C'est essentiel de le rappeler.
On a entendu les craintes de Grégory Doucet vis-à-vis des violences venant de l'extrême droite. On a presque envie de dire qu'on partage ces craintes, mais un peu de l'autre côté. Il est à craindre que des milices d'extrême gauche, tout simplement, puisqu'on rappelle que le groupe antifasciste lyonnais, la bien nommée GAL, a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait tout pour perturber cet hommage, en tout cas qui s'y opposeront de manière physique. Vous craignez pas qu'il y ait des débordements à ce niveau-là, Aliette Espieux?
Non, parce que la police est bien au courant, si vous voulez, de ces annonces, de ces nervis ultra-gauche. Encore une fois, si vous voulez, ça nous prouve à quel point ces types-là n'ont aucune dignité, aucune humanité. Ils sont quand même, leur groupe politique est quand même responsable d'un mort il y a environ à peine une semaine, et ils sont là à annoncer qu'ils iront attaquer un cortège qui rend hommage à leur mort. Donc en fait, c'est encore une fois rappeler à quel point ces types n'ont aucune âme, aucune décence. C'est scandaleux. Et puis je veux aussi quand même rassurer les potentiels manifestants, ceux qui hésitent. Évidemment, nous avons prévu ce qu'il fallait. Il y aura un service d'ordre conséquent, la police sera présente. Nous savons que la police va quadriller le secteur. Tous les moyens seront mis. Cela nous a été assuré par la préfecture et par les services de police. Là-dessus, je leur fais confiance et je n'ai aucune crainte vis-à-vis de la sécurité du cortège.
Vendry de Yerpel a une question pour vous, Aliette Espieux.
Effectivement, pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, ils n'ont aucune décence. Ils sont même revenus sur les lieux du meurtre le lendemain, alors qu'il y avait justement des caméras de TF1 et les amis de Quentin qui étaient revenus sur les lieux.
Et le journaliste Vincent Lapierre.
Exactement, pour faire un reportage de Vincent Lapierre. La question que j'avais à vous poser, c'est combien est-ce que vous attendez de personnes? À Paris, il y avait entre 1500 et 2000 personnes. Et est-ce qu'il y aura des personnalités politiques? On sait qu'elles ont un peu du mal à se déplacer, même à droite, effectivement, lors des hommages. Je rappelle, au moment de l'affaire Lola, au moment de Philippine, il n'y avait aucun député du Rassemblement National. Est-ce que vous attendez des personnalités politiques?
Je l'espère. Honnêtement, je l'espère. Après, encore une fois, un des mots d'ordre qui nous a été demandé à la fois par la préfecture, mais également par la famille, c'est que les élus sont évidemment les bienvenus. Après, aucune campagne électorale ne sera tolérée sur place. Ça, il en va de soi. Encore une fois, cet hommage a lieu pour Quentin et pour rien d'autre. Donc ça, c'est quand même un point à rappeler. Après, évidemment, les personnalités politiques, qui craindraient qu'il y ait des potentiels débordements d'un côté comme de l'autre, doivent être vraiment rassurés là-dessus. Nous mettons tous les moyens pour que ça n'ait pas lieu. Qu'il n'ait aucune crainte. Ils sont évidemment les bienvenus. Je pense que cet hommage a une portée extrêmement symbolique, du fait même qu'il se tiendra sur les lieux du crime. Disons que si certains institutionnels se rendent sur place, ça ajoutera ça ajoutera davantage de solennité, on va dire, à cet événement. C'est un événement qui a touché l'ensemble de la France, mais également à l'international. Certains politiques à l'international se sont mobilisés, comme par exemple Giorgia Meloni, qui a quand même souhaité rendre hommage à Quentin également. Ce serait dommage que les seuls qui ne le fassent pas soient des politiques français.
En tout cas, on reçoit à 19h, chers auditeurs, le député du Rassemblement National de la Somme, Mathias Renaud. On en profitera pour lui poser la question. Valentin Gore, vous avez une question pour les Tespieux?
Oui, une question peut-être très pratico-pratique, mais est-ce que vous avez connaissance d'autres hommages ailleurs en France qu'à Lyon? Je pense notamment à Paris, mais je pense qu'il y aura des hommages un peu partout.
Samedi, alors écoutez, je n'ai pas forcément la connaissance. Je sais que il y a quand même beaucoup d'hommages qui ont eu lieu cette semaine voilà, à commencer par Paris la semaine dernière. Samedi, je vous avoue que voilà, j'ai quand même des journées quand même assez...
Oui, vous êtes très concentré sur Lyon, bien sûr.
Sur Lyon, et voilà, évidemment, j'invite un maximum de villes à rendre hommage à Quentin. Encore une fois, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Il ne faut pas que, voilà, que l'histoire, le drame qui soit passé se transforme en simple fait divers. Non, la mort de Quentin n'est pas un fait divers. La mort de Quentin doit faire changer les choses, doit permettre à ce qu'il y ait un véritable changement au niveau de l'insécurité, que les politiques prennent en compte le fait que les Français en ont marre de vivre dans la peur, les Lyonnais notamment. Et voilà, il doit y avoir des changements sur ces sujets-là. La mort de Quentin ne doit pas finir aux oubliettes.
On précise en tout cas que, d'après une information du JDD, la maman de Théo, le jeune garçon lynché à Lyon fin janvier, sera présente à cette mobilisation. Le candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas, a plaidé pour accrocher le portrait de Quentin sur le fronton de la mairie de Lyon. On suppose que cette initiative a plu aux proches de Quentin, Aliette Espieux.
Alors, j'avoue, je n'ai eu aucun retour à ce sujet-là. Je ne sais pas, ce serait très honorable, très louable. À voir si M. Doucet aura autant d'énergie pour honorer la mémoire de Quentin que pour dénoncer et défoncer un hommage qui a lieu en son honneur. J'aimerais voir autant d'énergie déployée soutenir la famille. J'espère que ce sera le cas. Écoutez, je serais très surprise, mais j'espère de tout cœur que le maire aura ce petit geste qui est pour moi la moindre des choses que ce que la ville de Lyon peut faire pour la famille de Quentin.
Ouais. On précise que vous êtes lyonnaise, Aliette Espieux, que donc vous les voyez ces violences monter dans la capitale des Gaules. S'il fallait peut-être essayer de trouver peut-être des fruits ou en tout cas quelque chose de positif que la mort de Quentin pourrait apporter, ce serait peut-être une prise de conscience générale en réalité de cette violence qui pourrit les villes de Lyon, mais aussi la France entière. Est-ce que vous avez peut-être quelque espoir, quelque espérance à ce niveau-là?
Bah écoutez, j'espère, parce que si vous voulez, le problème c'est qu'il n'y a pas eu que Quentin. Il y a eu l'année dernière ce jeune Théo qui s'est fait agresser dans les rues de Lyon. D'ailleurs, sa mère viendra courageusement témoigner.
Absolument.
Et elle prendra la parole à l'hommage. Et c'est également important de le rappeler, de le dire. Il y a eu Théo, il y a eu Axel Dorier, qu'on oublie, pas très loin de Lyon.
Ah, ça, du
Victorine.
Ouais.
En fait, il y en a
Victorine à Saint-Chamond, oui, absolument. Ouais, ouais.
Il y en a tout le temps des victimes. Maintenant, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Que les Lyonnais, mais également les Français, puissent vivre en sécurité, qu'ils n'aient pas peur de sortir le soir, qu'ils n'aient pas peur de sortir la journée, tout simplement. Ce climat d'insécurité est épuisant. Il est épuisant, je pense, aussi bien pour les forces de l'ordre que pour les habitants eux-mêmes, qui, en fait, aimeraient pouvoir vivre simplement. Beaucoup de commerces ferment à cause de cette insécurité. Il serait temps que ce climat change.
Oui. Il serait temps qu'effectivement la paix revienne dans les rues de Lyon et bien au-delà. Merci beaucoup, Aliette Espieux, d'avoir été avec nous pour évoquer cette manifestation samedi à Lyon en hommage à Quentin. Évidemment, une manifestation ouverte à tous. Il y aura, vous l'avez précisé, il y aura un service d'ordre. Il y aura aussi une forte mobilisation des forces de police et de gendarmerie pour justement éviter que une mobilisation de nervis d'ultra-gauche qui viendrait essayer de perturber cet hommage. Merci encore, Aliette Espieux. Et à très bientôt sur les ondes de Radio Courtoisie. Vous venez de l'entendre, chers auditeurs, la manifestation aura bien lieu. On a vu que le maire Grégory Doucet plaidait pour son interdiction, une interdiction qui dépend de l'autorité du préfet. Et pour l'instant, tous les voyants semblent au vert et cette manifestation aura bien lieu. Nicolas Boutin, vous serez présent d'ailleurs, je crois.
Oui, vous pourrez suivre tout ça, évidemment, sur le site de Valeurs Actuelles, sur les réseaux sociaux de Valeurs Actuelles, et puis dans le magazine mercredi prochain, où on reviendra sur ce moment qui s'annonce fort. Et puis, il y a un vrai défi, hein, c'est de savoir si des anonymes, des gens qui ne sont pas militants ou paroissiens de Quentin, viendront s'ajouter aux personnes venues rendre hommage. On ira voir... Tout ça loin des caricatures que voudront nous montrer une certaine presse et certains politiques. C'est aussi comme ça que en étant sur le terrain et en racontant vraiment les faits. C'est aussi comme ça qu'on rendra le meilleur hommage à Quentin.
C'était votre mot de la fin, Nicolas Boutin, parce que vous nous quittez. Merci d'avoir été avec nous à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois. Évidemment, vos articles sont à lire sur le site de Valeurs Actuelles et notamment toutes les informations en lien avec la mort de Quentin et cette manifestation qui se tiendra à Lyon, cette manifestation d'hommage en la mémoire de ce jeune homme. Petite information qui vient de sortir, chers auditeurs, de la part du Parisien. Vous le savez, il y avait Raphaël Arnaud avait deux collaborateurs parlementaires qui étaient mis en cause dans l'affaire de la mort de Quentin, et on avait aussi évoqué un stagiaire qui a été aussi mis en cause, et d'après Le Parisien aurait été ce stagiaire a bien été collaborateur parlementaire à part entière, donc c'était même pas un stagiaire en réalité, ce qui monte quand même le chiffre à trois.
Ouais.
Trois collaborateurs parlementaires tous à la Jeune Garde et tous mis en cause dans l'affaire de la mort de Quentin, ça commence effectivement à faire beaucoup, ça fait beaucoup pour une coïncidence. Restez avec nous, chers auditeurs, alors que le député du Rassemblement National de la Somme, Mathias Renault, vient d'arriver sur le plateau. Nous allons l'interroger en quelques instants, mais d'abord un petit message de votre radio.